Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu.
Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Vous venez d'entendre la lecture d'Isaïe chapitre 52 verset 7. L'Église nous propose de lire ce texte le 22 octobre en la fête de Saint Jean-Paul II. Ces paroles correspondent si bien à ce grand pape qui n'a cessé d'annoncer la paix et de porter la bonne nouvelle de la miséricorde divine. Vous avez peut-être reconnu la voix du Père Henri-Marie Motin, que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Père.
Bonjour Violetta.
Merci d'avoir accepté de revenir pour nous parler de Saint Jean-Paul II. Quelle était l'influence du message de la miséricorde sur le pontificat de Saint Jean-Paul II?
Cette influence a été très grande, vraiment très grande. Lui-même a dit à la fin de son pontificat, la miséricorde divine dessine l'image de ce pontificat, le sien. Mais je pense qu'il faut pouvoir dire également que lui-même a eu une influence sur ce message qu'a reçu Faustine, Sainte Faustine, en Pologne, à son époque. Lui-même en a été un acteur, il a été acteur de ce message, il n'a pas simplement reçu de ce message, il s'y est impliqué pour le diffuser.
Mais c'est vrai qu'il l'a rendu universel.
Oui, on peut dire que Faustine a été vraiment la réceptrice, la messagère, Jésus l'appelle la secrétaire de la miséricorde, donc c'est elle qui a reçu ce message, ces révélations privées. Jean-Paul II a accueilli cela, on pourra le revoir dans un instant, dans son histoire personnelle, mais il en a fait une clé de tout son pontificat et même déjà de son travail, si l'on peut dire, d'évêque de Cracovie.
C'est vrai que lui-même, donc Saint Jean-Paul II, a été acteur de ce message de la miséricorde. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, Père?
Il me semble, pour comprendre la part qu'a pris le pape Jean-Paul II à la diffusion du message, il faut comprendre aussi le contexte dans lequel il a vécu, il a grandi et il a déployé son ministère de prêtre, d'évêque et de pape. Le premier point sur lequel lui-même est revenu plusieurs fois, c'est la situation et le contexte historique du monde et de l'Europe en particulier. Il faut se rappeler des éléments clés du XXe siècle. Le XXe siècle qui commence avec la Première Guerre mondiale, une guerre totale qui atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors, qui a mis en jeu un nombre de soldats et provoqué un nombre de morts et de destructions matérielles plus que toutes les autres guerres précédentes. Pendant cette guerre, il faut se rappeler, environ 9 millions de personnes sont mortes, 20 millions ont été blessés. C'est un premier événement qui marque le XXe siècle et qui se termine juste avant la naissance de Jean-Paul II. Jean-Paul II est né en 1920, juste après la Première Guerre mondiale. Faustine est née avant, en 1905. Donc ces deux personnes sont déjà, j'allais dire, marquées par le contexte de ce XXe siècle. D'autres événements vont suivre, en particulier donc évidemment la Seconde Guerre mondiale, le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, qui va mobiliser plus de 100 millions de combattants, tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils, et qui est la plus grande guerre idéologique de l'histoire. Et cela, donc, cette Seconde Guerre mondiale qui va éclater juste après la mort de Faustine, qui est morte en 1938, qui va éclater...
Il a été donné à Sainte Faustine de voir, le Seigneur lui a montré.
Oui, tout à fait, elle a eu des visions de ce qui allait advenir quelques années après. Et Jean-Paul II qui va lui-même arriver à Cracovie juste avant la guerre, et qui va connaître ces événements et cette guerre idéologique, va profondément le marquer et l'interpeller sur le sens que l'humanité doit retrouver, et en particulier justement la miséricorde comme réponse à donner à ces drames de l'humanité.
Donc Saint Jean-Paul II, je crois qu'il est arrivé à Cracovie 2 mois avant que Sainte Faustine ne meure.
Tout à fait. Alors... Jean-Paul II est né à Wadowice, une petite ville au sud de Cracovie, environ une soixantaine de kilomètres au sud de Cracovie. Une petite ville qui est non loin également, et c'est important de le rappeler, qui est non loin du camp de Auschwitz-Birkenau, où ont été exterminés tant de Juifs.
Oui.
Et donc lui-même va naître à la fois à proximité d'un des lieux d'horreur de la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz, et à proximité de cette ville de Cracovie, où meurt en 1938 celle qui reçoit ce message à transmettre au monde, l'appel à la miséricorde. Un troisième événement a lieu au cours du XXe siècle qui est particulièrement important pour comprendre la place de Jean-Paul II dans la diffusion de ce message, c'est le Concile Vatican II. Événement qui va se passer dans la seconde moitié du XXe siècle, auquel il est particulièrement impliqué, le Concile Vatican II. Il y arrive comme jeune évêque de Cracovie, comme jeune archevêque de Cracovie. Il va y participer et être en particulier acteur de certains textes majeurs du Concile. Jean-Paul II y prend part et à la fois s'imprègne et imprègne le Concile de la spiritualité, de la théologie qui est la sienne, et en particulier de cette approche de l'histoire de l'humanité sous le regard, si je peux dire, de la miséricorde divine. Enfin, évidemment, le dernier grand événement, ce sera sa propre élection en 1978 sur le siège de Pierre. Et là, à partir de là, il va donner au message de la miséricorde une ampleur universelle ecclésiale.
Déjà, oui, voilà. Préparer la route, le chemin pour rendre le message universel.
Exactement. Et en 1980, on y reviendra, il publiera l'encyclique « Dives in misericordia », « Dieu riche en miséricorde ».
Nous savons que Jean-Paul II, dans sa jeunesse, avait l'habitude de fréquenter le couvent où a vécu Sainte Faustine.
Effectivement, Jean-Paul II, le jeune Karol Wojtyła, est arrivé à Cracovie en 1938 avec son père. Il avait déjà perdu sa mère et son frère. Ils sont arrivés à Cracovie en août 1938, deux mois environ avant la mort de Faustine. À la mort de Faustine, et donc dans la dernière année en particulier, le message se diffusait dans le couvent et dans la ville, dans les milieux pieux de la ville de Cracovie. Lui-même en a donc entendu parler. Puis il témoigne qu'il a, lorsqu'il travaillait à l'usine Solvay, qu'il a fréquenté le couvent. Donc juste après la mort de Faustine, il a dit cela lorsqu'il a consacré le monde à la miséricorde divine.
Le 17 août 2002,
exactement.
Je crois.
Il a dit ceci. Au terme de cette liturgie solennelle, je voudrais dire qu'un grand nombre de mes souvenirs personnels sont liés à ce lieu. Je venais ici... Et donc le couvent des Sœurs de la Miséricorde à Cracovie, je venais ici surtout au cours de l'occupation nazie, lorsque je travaillais à l'usine Solvay, toute proche. Aujourd'hui encore, je me souviens de la rue qui conduisait à Borek-Falensky et à Demniki, que je parcourais tous les jours en allant travailler à divers horaires avec mes sabots aux pieds. On voit donc le contexte de pauvreté, ses sabots aux pieds, c'est l'époque, c'est la guerre. L'usine est effectivement juste derrière le couvent et le jeune Karol Wojtyła s'arrête là pour prier. Et donc il est déjà imprégné du message, il en entend parler et il l'accueille dans sa foi.
Qui aurait dit à l'époque qu'un jour il deviendra pape?
Exactement, c'était complètement imprévisible à ses yeux.
C'est magnifique, les voies de Dieu.
Oui, et il y a donc, c'est cela qui est important de noter, c'est qu'il y a donc une trame qui va se tisser entre Faustine et Jean-Paul II. Il y a comme un relais qui est donné à ce moment-là. Faustine, née en 1905, meurt en 1938, reçoit un message. Ce n'est pas une révélation nouvelle sur l'Évangile, c'est l'Évangile que Jésus rappelle à l'Église et à l'humanité dans un temps pathétique et dramatique, le temps des guerres, le temps des violences encore...
Comme pour préparer.
Oui, exactement. Et Faustine mourant en 1938, Jean-Paul II reçoit ce relais, il le prend et il le transmet. Et il s'en fait le messager tout au long de son ministère, encore une fois, de prêtre, d'évêque et de pape, jusque dans sa mort.
Justement, Père, pouvez-vous nous dire qu'a-t-il fait en faveur du message de la miséricorde ?
Il me semble que l'on peut noter quatre points particuliers ou quatre axes en particulier de l'action de Karol Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II, en faveur de la miséricorde. Le premier point qui est remarquable, qui est moins connu, c'est l'ouverture du procès de béatification de Faustine. Faustine, morte en 1938, le message se diffuse, mais les traductions en particulier de ce qu'avait transmis Faustine, les traductions en italien sont souvent erronées ou mal adaptées, et la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'époque, le Saint-Office, va poser des interdits au message.
Même en polonais, il y avait des problèmes dans la version polonaise.
Ça, oui. C'est vous qui pouvez nous le dire, Violetta. Bien sûr. Et donc, ces imprécisions dans la transcription du message, dans la traduction du message, ont conduit donc la congrégation du Saint-Office à mettre des interdits sur toute la diffusion du message partout dans le monde, sauf sur le lieu même, à Cracovie. Et donc, c'est à ce moment-là que, étonnamment, comme en contradiction avec l'événement ecclésial, que Karol Wojtyła, comme archevêque de Cracovie, va ouvrir le dossier de béatification de Faustine en 1966.
Alors que l'interdiction a été imposée en 1958.
De 58 jusqu'en 1978, pendant 20 ans. Oui, exactement, 20 ans. 20 ans d'interdit, et c'est au beau milieu, en 1966, que lui va ouvrir le dossier de béatification. Et là, il y a vraiment comme un jeu de la Providence qui va encore une fois tisser les liens entre Faustine et Jean-Paul II, puisqu'il va ouvrir ce procès. Puis, 12 ans plus tard, il est élu pape. L'interdit est levé en 1978 et il va béatifier d'abord Faustine en 1993 et la canoniser en l'an 2000, la première sainte canonisée de l'an 2000, de l'année du Grand Jubilé. C'est aussi à cette occasion qu'il a rendu public le culte de la miséricorde par l'institution de la fête de la miséricorde qui devient maintenant une fête intégrée à la liturgie universelle de l'Église catholique le dimanche après Pâques et devient la fête de la miséricorde divine. Et donc on voit là qu'il s'est vraiment engagé pour tirer de la confusion ce message tellement important qui était, si l'on peut dire enfoui, en tout cas troublé par la confusion créée par les mauvaises transcriptions ou les mauvaises traductions du message de Faustine.
Oui, justement, nous avons parlé au cours d'une émission aussi sur le fait que c'est aussi Jean-Paul II qui a demandé d'analyser d'abord le petit journal de Sainte Faustine.
Oui, lorsqu'il est arrivé sur le...
Par un théologien, bien sûr.
Oui, lorsqu'il est arrivé sur le siège de Pierre en 1978, il a assez rapidement, puisque dans les premières années de son pontificat, avant 1980, il a mis en route un travail d'analyse critique des écrits de Faustine qui vont permettre la publication authentique, si l'on peut dire, en tout cas autorisée, de ses écrits qui sortiront en 1981. La première édition du Petit Journal va sortir en 1981, et c'est à partir de cela, ayant soumis les écrits de Faustine aux travaux des théologiens, qu'il va pouvoir écrire la première encyclique, sa seconde encyclique, mais la première sur la miséricorde divine, Dives in Misericordia.
Et qui sortira quand même avant la première édition du Petit Journal en 1980.
Exactement. L'encyclique Dives Misericordia a été promulguée le premier dimanche de l'Avent, en novembre 1980.
Pourriez-vous nous dire un mot sur l'encyclique Dives in Misericordia si importante, Père ?
Elle est le deuxième acte fort de Jean-Paul II en faveur de la miséricorde divine et de ce message. Je voudrais, pour commencer, en vous parlant de l'encyclique, vous citer les paroles mêmes de Jean-Paul II, l'homélie du 13 mars 1994 dans la paroisse romaine de Saint-François de Sales. Il dit ceci. Le mot-clé dans la liturgie de la parole de ce jour est le suivant, « Dives in misericordia », Dieu riche en miséricorde. Ce fut pour moi un mot-clé dès le début de mon pontificat, mon ministère à Rome. Cette inspiration a été portée dans ma patrie, à Cracovie, à travers une simple religieuse nommée Faustine, sans doute connue aussi à Rome, connue dans le monde entier, bien qu'elle ait vécu très cachée dans le Christ. Elle a vécu entre les deux guerres mondiales, elle est une grande mystique, une des plus importantes dans l'histoire de l'Église.
Donc il en parle quand même, oui.
Très précisément, oui. Et il poursuit, elle avait une belle proximité de Jésus-Christ qui se révèle à elle comme la compassion. Il y a des photos, des images de Jésus miséricordieux avec son cœur transpercé. Et le pape poursuit, écoutez bien, « Venant de ce milieu, j'ai apporté ici une inspiration, presque un devoir. Tu ne peux pas ne pas écrire sur la miséricorde. Ainsi est née la seconde encyclique de mon pontificat, Dives in Misericordia, Dieu riche en miséricorde. »
Merci beaucoup, Père, de nous avoir lu ce texte qui est très très beau et je pense qu'il n'est pas très connu.
Très peu. Parce que c'est une homélie qu'il a prononcée donc, en 1994, lors d'une des visites pastorales. Pour moi, il est très frappant que Jean-Paul II, ici, parle explicitement du rapport qu'il y a entre Faustine, le message de Cracovie, et l'écriture de l'encyclique.
Donc en 1994, elle est déjà béatifiée.
Elle est déjà béatifiée depuis un an.
D'accord. Oui. Oui.
Alors, ce qu'il y a de très frappant, c'est que Jean-Paul II exprime très clairement le fait qu'il a écrit l'encyclique parce qu'il a été porté par ce message et qu'il sent qu'il doit le transmettre. Et en même temps, lorsqu'il écrit cette encyclique, il ne parle jamais et à aucun instant il ne fait une référence ni à Faustine, ni aux apparitions de Faustine, que Faustine a reçues, ni au message qu'elle a reçu. Personnellement, ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai lu l'encyclique la première fois, lorsque j'étais séminariste.
Vous connaissiez déjà le message de la miséricorde divine quand vous l'avez lu, cette encyclique ?
Oui, je le connaissais un peu, mais précisément, j'étais frappé de voir que le pape n'y faisait jamais référence. Je voudrais pour cela faire aussi mémoire d'un autre pape et d'une autre fête, du pape Pie XII et de la fête du cœur de Jésus. Pie XII a écrit une encyclique sur le cœur de Jésus qui s'appelle « Aurietis Aquas »,« Vous puiserez les eaux » en français. Cette encyclique, Pie XII l'a écrite précisément pour déployer et développer le culte rendu au cœur de Jésus. Et dans cette encyclique, il fait 3 ou 4 fois explicitement référence aux apparitions du Christ à Marguerite Marie à Parelmonial.
Alors que Jean-Paul II n'en fait pas à Sainte-Faustine.
Exactement. Ouais. Et donc il y a là un autre rapport au message. Jean-Paul II veut montrer et va déployer dans l'encyclique les arguments qui vont montrer que ce message ne relève pas avant tout d'une spiritualité privée ou de révélation privée. Il va vouloir donner à ce message toutes ses bases dans l'Écriture sainte, dans la tradition de l'Église, en montrant que les bases les plus sûres de ce message appartiennent par nature au dépôt même de la révélation.
Donc c'est très important, ces bases solides.
Oui. Et là, Jean-Paul II donne toute la légitimité à ce message qui n'est plus de l'ordre d'une révélation privée, qui est une révélation privée qui vient éclairer un aspect essentiel du message évangélique lui-même. Et on va le retrouver dans le premier chapitre de l'encyclique.
C'est très intéressant ce que vous nous dites, Père. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur le contenu de cette encyclique ?
Alors, ce serait bien audacieux de vouloir la résumer en quelques minutes. Je vais vous en donner la trame très rapidement et puis, si vous voulez, souligner quelques points qui me paraissent essentiels dans l'encyclique. Cette encyclique se lit assez facilement. Elle est partagée en 8 chapitres. Tout d'abord, le premier chapitre, « Qui me voit, voit le Père », révélation et incarnation de la miséricorde. Je reviendrai sur ce point qui rejoint ce que je vous disais à l'instant sur la valeur de ces révélations privées qui vont éclairer la grande révélation publique. Le pape fait une longue et importante analyse scripturaire du message de la miséricorde dans les Écritures, à la fois dans les chapitres 2, 3 et 4, le message messianique, la miséricorde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en particulier dans le chapitre 4 à travers la parabole de l'enfant prodigue, qui est, comme nous dit le pape, une icône de la miséricorde. Le chapitre 5 traite du mystère pascal, j'y reviendrai également parce que c'est un chapitre qui me semble essentiel pour comprendre la place de la fête de la miséricorde et la place non seulement liturgique mais profondément théologique. Ensuite, les trois derniers chapitres, 6, 7 et 8, nous renvoient à l'actualité, si l'on peut dire, de la miséricorde de génération en génération. Et le pape, il lance comme un cri d'inquiétude face à notre génération qui semble partir dans une fuite en avant, qui l'éloigne de Dieu et qui conduit cette génération à sa perdition. Et dans le chapitre 7, le pape montre donc que la miséricorde est comme la mission urgente de l'Église aujourd'hui, invoquer et annoncer la miséricorde divine. Et enfin, le chapitre 8, qui est précisé toujours dans cette mission de l'Église, comme un appel à prier, l'invocation de la miséricorde, la prière de l'Église de notre temps en faveur de la miséricorde. Voilà, si l'on peut dire, la trame rapidement.
Merci Père, beaucoup, ça nous éclaire. Je pense que les auditeurs aussi, surtout ceux qui n'ont pas encore lu cette encyclique. Quels sont les points que vous aimeriez souligner dans cette encyclique?
Le premier point, comme je l'ai rapidement évoqué à l'instant, c'est le chapitre 1, qui me semble essentiel pour comprendre le message de la miséricorde. Ce chapitre 1, dont le titre est Révélation et incarnation de la miséricorde. La miséricorde se révèle à nous. La miséricorde, il faut bien le comprendre, et c'est ce que va, avec ces mots de théologien, nous expliquer le pape, est beaucoup plus que la gentillesse ou beaucoup plus qu'une vertu humaine. La miséricorde est un attribut divin. C'est l'être même de Dieu. La miséricorde n'est donc pas une chose naturelle. La miséricorde est proprement surnaturelle. Souvent, nous ne voyons la miséricorde que comme une attitude humaine, comme un excès de bonté humaine, comme même parfois, et notre génération a cette vision de la miséricorde, comme une faiblesse humaine. La miséricorde, ça serait tout laisser faire, tout laisser passer. Et donc, nous le percevons bien, il y a des incompréhensions de ce qu'est la miséricorde. Jean-Paul II nous rappelle que la miséricorde est avant tout un acte divin. C'est Dieu qui se dit, c'est Dieu qui se donne. Et la miséricorde ne s'invente pas. La miséricorde n'est pas le fruit d'une réflexion humaine, d'une construction humaine ou d'une recherche humaine. Elle est avant tout un acte de Dieu. Dieu est beaucoup plus que gentil, voyez ? Bien sûr qu'il est gentil et nous avons à être gentils, mais Dieu est beaucoup plus que gentil, il est miséricordieux. Voilà pourquoi la miséricorde, nous la recevons. Elle nous est révélée par Dieu dans le Christ. Le Christ est Jésus qui est non seulement parole de miséricorde, mais qui est incarnation de la miséricorde. Le deuxième point que je voudrais souligner sur l'encyclique, c'est la richesse de l'apport de l'analyse scripturaire qui éclaire le message de la miséricorde. Je ne le reprendrai pas en entier, mais je soulignerai simplement la valeur de l'analyse des mots de miséricorde dans l'Ancien Testament. Avec ce qui est assez connu maintenant, ce mot de rachamim en hébreu, rachamim qui exprime le sein maternel et les entrailles. Dieu est miséricordieux au même égard qu'une mère aime son enfant. Un petit enfant, sa mère pourrait-elle l'oublier? Moi, je ne t'oublierai pas. Les entrailles de Dieu sont des entrailles de miséricorde. Et enfin, le troisième point que je voudrais souligner, qui est très important, me semble-t-il, c'est la référence au mystère pascal dans le chapitre 5. Le mystère pascal est un des points clés de la théologie du Concile Vatican II. Jean-Paul II, dans ce chapitre 5 de l'encyclique, va montrer combien la miséricorde, précisément, trouve sa source et va trouver aussi son sommet, son déploiement dans le mystère pascal. Dans le mystère pascal, la miséricorde divine s'accomplit dans la personne et dans l'acte de Jésus qui offre sa vie par amour des hommes sur la croix. Son cœur est transpercé sur la croix. Voilà pourquoi la fête de la miséricorde arrive comme au terme de l'octave du temps pascal. Voilà pourquoi la passion est l'œuvre la plus grande que Jésus accomplit pour faire miséricorde au monde.
Et quelles sont les deux autres actions du pape Jean-Paul II en faveur du message de la miséricorde?
Alors, les deux autres actions majeures que j'ai soulignées, ce sont tout d'abord toute la pastorale de son pontificat. Jean-Paul II a été pasteur de la miséricorde dans tous les aspects de sa mission de pape. Je pense qu'on peut lire la miséricorde comme un axe transversal de tous les aspects de sa prédication et de son action pastorale. Dans l'apostolat concernant la vie, la famille, le travail humain, la foi,
c'est vrai,
la mission. Dans tous ces domaines, Jean-Paul II va se référer à l'amour miséricordieux de Dieu. Et l'on peut dire que le dernier acte pastoral de Jean-Paul II fut sa mort elle-même. C'est le quatrième acte, si l'on peut dire, que Jean-Paul II va accomplir en faveur de la miséricorde. C'est un peu audacieux de dire cela, mais il me semble que Jean-Paul II n'a pas subi sa mort, il a donné sa vie. Il a donné sa vie dans un acte qui en lui-même reste prophétique. Il est mort le soir du premier samedi du mois d'avril, dans la vigile de la fête de la miséricorde divine. Donc il y a comme une symbolique du moment de son départ qui est très parlante, et il a rassemblé, étonnamment, on s'en souvient tous, plusieurs centaines de milliers de personnes, les foules étaient nombreuses, rassemblés sur la place Saint-Pierre. Certains ont dit que c'était ses dernières JMJ. Ce n'est plus lui qui s'est déplacé, ce sont les jeunes qui sont venus à lui. Et Jean-Paul II, dans son départ, a comme renvoyé tous ceux qui venaient à lui à ce moment de son départ, qui était ce deuxième dimanche après Pâques, la fête de la miséricorde divine. Il y a comme une symbolique prophétique dans l'heure et le moment de son départ. On peut dire en conclusion que Jean-Paul II est vraiment apôtre, témoin et prophète de la miséricorde. Il n'a pas seulement reçu un message, il l'a vraiment transmis. Voilà pourquoi sa canonisation est un signe d'espérance pour le monde. Le jour de sa canonisation, le dimanche après Pâques, nous rappelle et nous renvoie toujours à cette fête de la miséricorde. C'est un appel pour le monde et pour l'Église à avoir confiance en la miséricorde. Jésus le disait à Faustine, le monde ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde.
Merci beaucoup, Père, de nous avoir permis de découvrir un peu plus la figure de ce grand pape et son rôle dans la diffusion de ce message de la miséricorde divine qui est le message de l'Évangile. Dieu nous aime infiniment. La semaine prochaine, c'est le Père Martin Prader, également prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui nous parlera du lien entre le message du Sacré-Cœur. Nous serons à la veille du mois de juin, mois du Sacré-Cœur, et du message de la miséricorde divine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Pour terminer, Père, pouvez-vous nous bénir ?
Bien sûr. Merci Violetta de m'avoir invité à vous parler de la miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse, vous-même, auditeur de Radio Espérance, qu'il vous garde dans sa paix, dans la joie de son pardon toujours renouvelé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.